avec nous. RFI vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Et ce matin, eh bien, nous allons lancer le débat sur les funérailles de Jean-Claude Duvalier. Où et comment sera enterré l'ancien dictateur haïtien décédé samedi dans la capitale haïtienne à Port-au-Prince. Il est mort d'une crise cardiaque. Alors pour l'instant, Michel Martelly, le président d'Haïti, n'a pas encore tranché. Mais sur place, la question suscite la controverse. Car le protocole exige des funérailles nationales en tant qu'ancien chef d'État. Cette perspective de décréter un deuil national choque évidemment les victimes de son régime, car comme son père, Jean-Claude Duvalier a dirigé Haïti d'une main de fer en muselant l'opposition et en arrêtant les dissidents. Alors, quelle funéraille pour l'ancien dictateur? Que pensez-vous de cette polémique? Vous nous rejoignez, vous nous appelez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et vous continuez évidemment à réagir sur la page Facebook de l'émission. Je lirai dans le courant du débat quelques-unes de vos réactions. Mais d'abord, ce sont vos questions. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI, nos spécialistes ici à la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Je le dis régulièrement et je le répète, n'attendez pas le début de cette émission pour nous contacter. Vous pouvez évidemment nous rejoindre tout au long de la journée. Le standard est ouvert, donc appelez-nous. On a besoin évidemment d'avoir vos questions en amont afin de préparer cette première partie. La première question nous vient du Mali. Mohamed nous appelle de Bamako. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous avez des questions concernant la reconnaissance de l'État palestinien?
Évidemment. La semaine passée, j'ai appris sur la RFI que la Suède envisage de reconnaître la Palestine comme État. À ce propos, j'ai deux questions. Pourquoi la Suède veut reconnaître la Palestine comme État alors que les autres pays de l'Union européenne ne le font pas?
Ah oui.
Quelles peuvent être les conséquences de cette annonce?
Alors, bonne question, effectivement, Mohamed. C'est vrai que vendredi dernier, le Premier ministre suédois a quand même créé la surprise en annonçant dans son discours de politique générale que son pays allait reconnaître l'État de Palestine. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Jérusalem. Merci d'être avec nous. Le nouveau gouvernement suédois a donc décidé de prendre ses distances avec la diplomatie traditionnelle de la Suède. Comment expliquer une telle décision?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un nouveau gouvernement en Suède, de gauche, alliance des sociaux-démocrates et des Verts, qui est plus favorable à la cause palestinienne que l'ancien gouvernement. Même s'il faut dire quand même que la Suède a toujours été parmi les pays de l'Union européenne à soutenir les Palestiniens et à critiquer assez souvent Israël. Donc ça, c'est la première raison, hein, ce nouveau gouvernement suédois. Deuxièmement, il y a un contexte particulier en ce moment au Proche-Orient. On est dans une impasse totale, hein, quant au processus de paix. Vous savez, il y a eu d'abord l'échec des négociations sous l'égide des Américains en avril dernier, puis la guerre à Gaza cet été, qui ont vraiment éloigné les positions israéliennes et palestiniennes, les déclarations de Mahmoud Abbas accusant Israël de génocide à la tribune de l'ONU, la poursuite de la colonisation côté israélien. Bref, on est vraiment dans une situation très difficile. Et certains pays étrangers se disent qu'il est temps maintenant de trouver d'autres solutions, des leviers pour faire redémarrer ce processus de paix, qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle, et reconnaître un État palestinien. Eh bien, ce serait le traité d'égal à égal avec Israël, ce serait faire pression à la fois sur les Palestiniens mais aussi sur les Israéliens, en somme peser dans la reprise d'un processus de paix qui peut se traduire sous différentes formes. Ça peut être effectivement pour la reprise de négociations, mais peut-être sous une forme différente qu'avec les sacro-saintes négociations menées sous l'égide des Américains.
Ouais, à noter que le Premier ministre suédois se passera de l'aval de son Parlement, puisqu'il n'a pas la majorité, en tout cas son parti est minoritaire. C'est ce qu'a déclaré hier la diplomatie suédoise. En tout cas, cette reconnaissance de l'État palestinien est saluée évidemment par les dirigeants palestiniens, ce qui n'est pas le cas évidemment d'Israël, qui proteste formellement. Quelles peuvent être les conséquences de la décision suédoise?
Alors, première conséquence pour les Suédois de cette annonce, la convocation hier de l'ambassadeur de Suède en Israël, c'était au ministère des Affaires étrangères israélien. Il s'est fait signifier officiellement la désapprobation et la déception d'Israël face à l'attitude de son pays. La reconnaissance de la Palestine serait, selon les Israéliens, contre-productive. Elle pousserait les Palestiniens à déclarer unilatéralement leur État et pas à travers des négociations. Ça, c'est la position d'Israël. Pour l'instant, on ne va pas plus loin. Il n'y a pas de rappel d'ambassadeur ou de rupture de liens économiques, politiques. On verra lorsque la Suède aura vraiment reconnu l'État de Palestine. Pour l'instant, c'est une annonce. Si les Israéliens sévissent ou en restent là. Autre conséquence plus générale, je dirais que cette annonce peut avoir un effet d'entraînement. Vous savez que plusieurs autres pays européens pourraient être tentés de faire la même chose que la Suède. Et la France y réfléchit sérieusement. Hier encore, le ministère des Affaires étrangères a redit qu'il faudrait bien à un moment reconnaître cet État de Palestine. Il est urgent de faire progresser la solution à deux États, d'aboutir à l'établissement d'un État. Mais effectivement, la France pourrait évidemment suivre la Suède. J'avais un diplomate hier au téléphone qui me disait que ce n'est même plus une question de si la France va reconnaître cet État palestinien, mais quand et sous quelles conditions. Donc vous voyez, il peut y avoir une espèce de dynamique européenne pour pousser à la reprise du processus de paix.
En tout cas, d'après l'autorité palestinienne, 134 pays à travers le monde ont déjà reconnu l'État de Palestine. Merci Muriel Paradon d'avoir été en direct avec nous de Jérusalem. Mohamed, belle journée à Bamako. Vous nous écoutez sur place, il est 8h17. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan.
Quel plaisir de vous avoir. Je rappelle aux auditeurs qui sont familiers évidemment de votre voix que vous avez ces dernières années été correspondant d'RFI à Pékin. Vous êtes de retour à Paris, donc on aura le privilège, j'ai envie de dire, de vous avoir, j'espère, régulièrement.
Ravi de vous retrouver en studio, en tout cas.
Pour répondre à des questions d'auditeurs. Bienvenue nous appelle de Porto Novo. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Juan et bonjour à Stéphane Lagarde, hein, et quel plaisir également de l'entendre en direct.
Merci, bienvenue.
Et Juan, permettez-moi aussi de dire bonjour à Rachel et à Camille, hein, au standard.
Effectivement, vous avez raison de saluer toute l'équipe au standard qui réceptionne vos appels. Vous avez des questions sur la santé du numéro 1 nord-coréen.
Eh bien, récemment, Juan, un haut dirigeant nord-coréen a démenti la rumeur concernant les problèmes de santé du président nord-coréen. Eh bien, suite à cela, j'ai deux questions. La toute première d'abord, comment expliquer que le président Kim Jong-un ne soit plus apparu en public ou dans les médias depuis le 3 septembre dernier? C'est la toute première question.
Alors, oui, et la deuxième?
La deuxième, que peut-on alors penser sur son état de santé?
Alors, que sait-on, Stéphane Lagarde, de l'état de santé du numéro 1 nord-coréen? C'est vrai que, bienvenue a raison de le rappeler, depuis le 3 septembre, celui qui apparaît quand même quasiment tous les jours à la télévision est invisible.
Oui, parce que les dirigeants nord-coréens, bienvenue a raison, on les voit aujourd'hui, le fils, mais ça fait trois générations qu'on les voit, les Kim, apparaître tout le temps, on les voit inaugurer des usines, on les voit défiler devant les soldats, se faire saluer par les soldats, on les voit tous les jours à la télévision nord-coréenne. Donc quand on les voit plus, ça inquiète évidemment. On n'a pas vraiment de réponse, bienvenue. Enfin, si vous voulez être assuré par la parole officielle, en tout cas, effectivement, un officiel en Corée du Sud a dit très récemment, samedi dernier, que tout allait bien. Officiellement, la phrase, c'est « il n'y a aucun problème de santé avec la santé du secrétaire général Kim, donc tout va bien selon les officiels ». En même temps, cette parole officielle peut être contredite par une autre parole officielle le 25 septembre dernier, la télévision d'État nord-coréenne qui disait que Kim Junior donc souffrait, je cite encore, d'inconfort sur le plan physique, sans donner plus de précision. Alors toutes les spéculations sont possibles, effectivement.
Bien sûr, ouais.
D'abord l'état de santé, beaucoup. Alors on regarde beaucoup les images d'avant, on se dit tiens, certains l'ont vu un peu claudiquer, en tout cas.
Il boitait un peu.
Boitait, voilà. Alors, ils disent il a la goutte, Kim Jong-un. Ça c'est ce que disent certains experts. Et puis il y en a d'autres qui disent il a de l'embonpoint. C'est vrai qu'il est un peu fort, Kim Jong-un. Donc forcément. Il fait un régime parce que paraît-il, enfin ça c'est vrai, il a fait ses études en Suisse, donc paraît-il il aimerait le fromage, il en abuserait de fromage Kim Jong-un et donc il ferait un régime actuellement. Mais tout ça ce sont des spéculations. Plus sérieusement, il y a deux semaines, il y a ce qu'on appelle les North Korean Watchers, donc ceux qui observent, là les professeurs qui sont à Sydney, partout d'ailleurs dans le monde, mais qui observent très précisément ce qui se passe dans les journaux officiels nord-coréens, disent que peut-être il y aurait une préparation d'un voyage d'État de Kim Jong-un, donc qui pourrait apparaître bientôt, sortir du chapeau et arriver par exemple en Mongolie, hein, ça pourrait être un premier voyage d'État officiel, on ne sait pas du tout, pareil, ça ce sont des spéculations, on pourrait, ça pouvait être aussi finalement la visite qui a eu lieu, la surprise qui a eu lieu samedi dernier, une visite d'un haut responsable, puisqu'il s'agissait du président de la commission nucléaire, de la commission nationale de défense, donc qui est un organe très important, qui est arrivé pour un rapprochement avec la Corée du Sud, donc ça pouvait être ce voyage-là aussi, donc finalement on ne sait pas trop si finalement Kim Jong-un sortira du pays ou non bientôt.
Donc le mystère reste entier.
Simplement, il faut ajouter que c'est pas nouveau non plus. Il est à trois reprises là. J'ai pas amené mes notes précisément, mais c'est pas la première fois que Kim Jong-un disparaît des écrans. Ça arrive souvent quand même en Corée du Nord qu'on parte deux semaines, trois semaines et qu'on sache pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là.
Là, ça fait maintenant quasiment cinq semaines.
Oui, alors il y en a même qui sont très inquiets, qui disent qu'il est mort. Mais enfin, on peut vraiment, vraiment pas savoir.
Merci Stéphane Lagarde d'avoir essayé de nous éclairer davantage sur la santé de Kim Jong-un. Bienvenue. Bonne journée au Bénin. Merci de nous écouter sur place. Il est 10h20 à Paris. Vous nous appelez. Vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Nous allons en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ange Désiré, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous avez des questions concernant le référendum en Catalogne, référendum d'autodétermination.
C'est exact.
On vous écoute.
Ok. J'ai entendu sur les antennes de RFI que le référendum sur l'indépendance de la Catalogne prévu pour le 9 novembre avait été suspendu par la Cour constitutionnelle espagnole.
Oui.
Et je voudrais savoir en quoi ce référendum est-il considéré comme anticonstitutionnel.
Alors, c'est vrai que la Catalogne est engagée dans un vrai bras de fer juridique avec Madrid, avec le gouvernement central espagnol qui refuse effectivement tout référendum d'autodétermination. Bonjour Vincent Laborde.
Bonjour, Vincent Laborderie.
Laborderie, autant pour moi. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom de famille. Ce n'est pas la première fois en plus que vous acceptez de répondre à des questions d'auditeurs. Vous êtes chercheur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain, c'est en Belgique, et vous êtes spécialiste des indépendantismes. Pourquoi les Catalans n'ont-ils pas le droit d'organiser, comme les Écossais le mois dernier, d'organiser un référendum pour se prononcer sur l'avenir de leur région?
Bien alors en fait le tribunal constitutionnel se base évidemment sur la constitution espagnole qui dit d'une part que l'Espagne est un pays indivisible et d'autre part que en fait toute consultation ou référendum qui est faite en Espagne doit être faite sur l'ensemble du territoire. Et donc l'idée de référendum catalan contrevient à ces deux principes.
Mais c'est ce qu'on comprend bien, si les Catalans, s'il fallait organiser un référendum sur l'avenir de la Catalogne, il faudrait l'organiser sur l'ensemble du territoire espagnol et permettre à tous les Espagnols de s'exprimer.
Oui, c'est ça. Donc c'est ce que demande la Constitution si on veut respecter la lettre de la Constitution, et c'est ce que demande le gouvernement espagnol, et voilà. Et après, bon, il y a évidemment une différence flagrante entre ce qui se passe là et ce qui s'est passé en Écosse, et puis ce qui s'est passé dans d'autres pays, au Québec ou dans de nombreux pays, y compris du tiers-monde, qui ont accédé à l'indépendance. Mmh. Donc voilà, effectivement, c'est assez problématique. Ça résulte finalement d'une politique du gouvernement espagnol qui a été constante, en particulier depuis l'arrivée de Mariano Rajoy au pouvoir, qui a consisté à en fait bloquer le plus possible le processus en Catalogne et ne pas mener de véritables dialogues. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment un référendum, c'est une consultation, c'est-à-dire que les Catalans ont toujours dit qu'ils font cette consultation, mais que même s'il y a un oui à l'indépendance qui apparaît, ils ne déclareront pas l'indépendance tout de suite. C'est-à-dire c'est plutôt une base de négociation.
Oui, alors c'est intéressant parce que, effectivement, le tribunal constitutionnel a suspendu temporairement le décret qui vise à organiser ce référendum, mais il y a encore 48 heures, le président de la région Catalogne a réaffirmé sa volonté d'organiser ce référendum le 9 novembre, donc dans un peu plus d'un mois. Que peut-il se passer? D'autant qu'on voit quand même que l'aile radicale des indépendantistes, des nationalistes, appelle clairement à la désobéissance civile. On peut s'attendre à des violences à Barcelone, en Catalogne, dans les prochaines semaines?
Alors, est-ce qu'on peut s'attendre? Je ne sais pas si c'est le plus probable, c'est difficile à dire. Je ne pense pas que ce soit le plus probable. Il ne faut pas l'exclure du tout. On verra ce qui se passe. Après, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Bon, il est possible que vraiment le gouvernement catalan aille jusqu'au bout et le fasse véritablement malgré les pressions de Madrid. Alors à ce moment-là, il est possible que la police espagnole intervienne et puis arrête les gens, les fonctionnaires qui procéderaient à ce scrutin. Mmh. Après, ce qui est aussi possible, et je pense que c'est le plus probable, c'est que finalement, sous la pression, ils renoncent à organiser la consultation. Et alors là, ça ouvre la voie en fait à des élections qui seraient faites au niveau catalan, des élections parlementaires, mais avec comme seul thème de campagne l'indépendance, et avec les partis qui se présentent pour l'indépendance, considérant que s'ils rassemblent une majorité de voix, ça voudra dire qu'il y a une majorité de la population catalane qui est pour l'indépendance. Ouais.
Enfin, en tout cas, le dernier sondage révèle que 60% des Catalans sont favorables à l'indépendance. Affaire à suivre, bien évidemment. Vincent Laborderie, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain. Malik, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Conakry, vous êtes en Guinée et vous avez des questions concernant le classement annuel de la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique.
Oui, la semaine dernière, elle a procédé à la publication du classement des gouvernances dans les pays africains. J'ai trois questions à poser. Mmh. La première, quelles sont les méthodes pour procéder, pour procéder au classement de ces pays africains?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, si vous le permettez, avec Aïcha Ba Diallo. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du comité du prix Mo Ibrahim. Vous êtes ancienne ministre de l'éducation de Guinée et ancienne sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO. Alors c'est vrai que chaque année, la fondation Mo Ibrahim publie son rapport sur la gouvernance en Afrique. 52 pays sont passés au crible. Comment faites-vous pour mesurer la performance de chaque pays?
Eh bien, c'est en utilisant justement cet outil qu'on appelle l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, qui est un classement complet des pays d'Afrique, et c'est basé sur la qualité de leur gouvernance. Par exemple, celui de 2014, il concerne 52 pays. Vous vous souviendrez que le Soudan du Sud a quitté le Soudan. Donc, ces deux pays, maintenant, le Soudan du Sud, ces deux pays ne font pas partie. Mmh. On a donc 52. Nous espérons que les deux, lorsqu'ils auront des données, seront inclus dans l'indice de 2015.
Ouais. Mais comment vous, sur quels critères, sur quels éléments vous vous basez pour dire, cette année, une fois encore, l'île Maurice est première du classement?
Oui. Non, nous nous basons sur 5 catégories globales qui collectivement donc constituent la pierre angulaire des obligations du gouvernement vis-à-vis des citoyens. Mmh. Et ces 5 catégories sont subdivisées en sous-catégories. Lorsque je prends par exemple la première catégorie, c'est la sécurité et état de droit, qui a 4 sous-catégories. Nous avons la participation et droits de l'homme, qui comprend 3 sous-catégories. Nous avons le développement économique durable, qui a, lui, 4 sous-catégories, et le développement humain, 3 catégories. Mm-hmm. C'est en se basant sur ça, là, 5 catégories, 14 sous-catégories, mm-hmm. il y a 93 indicateurs et 130 variables.
93 indicateurs. Alors pour donner quelques exemples concrets, si vous le permettez, Aïcha Ba Diallo, ça va de l'indépendance de la justice à la transparence des élections, en passant par l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, la qualité de l'enseignement ou encore le respect des droits de l'homme. Comment vous vous procurez à la Fondation Mo Ibrahim toutes ces données? Avec qui vous travaillez? Qui sont vos sources finalement?
Les sources, c'est 34 sources externes qui proviennent de 28 institutions indépendantes africaines et mondiales.
Et ce sont des sources crédibles?
Absolument.
Absolument. Parce qu'on peut être surpris aussi par le classement. On a organisé la semaine dernière un débat. Un auditeur nous disait, mais comment se fait-il que la Libye, qui se retrouve à la 43e place, alors que le chaos règne sur place, et un pays comme le Tchad est avant-dernier, alors que, certes, il y a des choses à critiquer, mais la situation est nettement moins chaotique. Donc on peut s'interroger, effectivement, sur la fiabilité de toutes ces données.
À ce moment-là, ce que moi je demanderais aux auditeurs, c'est de regarder le site web www.moibrahimfoundation.org. Ils vont voir là toutes les sous-rubriques et comment on les obtient et comment c'est classé.
Ouais. Alors c'est très...
scientifiquement fait. Hein.
C'est scientifiquement fait. Il y a énormément de chiffres, bien évidemment, avec des courbes. On voit l'évolution des différents pays c'est depuis 5, 6, 7 années. Donc c'est vrai que c'est bien fait, c'est instructif, c'est enseignant. En tout cas, merci beaucoup, madame. On avait d'autres questions, mais malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. On marque une pause pour le point complet sur l'actualité. Merci à Aïcha Badialo. 339-693-693-70. Appelez-nous, on parle dans 10 minutes des funérailles de Jean-Claude Duvalier, l'ex-dictateur haïtien.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie.